Si on pousse la réflexion, on peut aussi parler des transferts qui génèrent énormément d'argent chez les hommes. Vous en parlez dans votre livre, par contre, les transferts féminins ne sont pas rares, mais ils ne pèsent pas très lourd, Lucas Rondel, si vous voulez.
Oui, non, ça n'a, y a très peu y a assez peu de transferts donc chez les femmes. Ça n'a rien. Là, c'est tout. C'est le même constat que ce qu'on faisait tout à l'heure sur les budgets. C'est-à-dire, on est vraiment dans deux mondes complètement différents, quoi. Je crois que le record a été battu cette année justement. Un transfert qu'il y a eu en Angleterre. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Bernie Harder.
Oui, voilà, Bernie Harder qui est passé d'Allemagne en Angleterre. Il y a aussi, on voit bien qu'effectivement, il y a certaines championnes américaines qui viennent faire des piges en Angleterre. Donc, il y a quand même, au niveau de la mobilité des footballeuses, il y a quand même des choses qui s'accélèrent un petit peu. Mais bon, voilà, pour l'instant, on ne parle pas encore de trading, entre guillemets, de trading joueuse, comme on parle de trading joueur pour certains clubs, notamment en Ligue 1, quoi.
Bah, là-dessus, sur l'économie de transfert, moi, je pense que, bon, évidemment, je pense que c'est inutile d'essayer de comparer avec les hommes et de tout ce qui se passe chez les hommes, comme sur beaucoup de sujets, d'ailleurs, autour du foot féminin. Par contre, ça peut faire partie des futurs revenus des joueuses. D'ailleurs, c'est en discussion en ce moment, par exemple. Il y a des discussions autour des indemnités de formation qui existent chez les garçons et qui permettent au club d'avoir un centre de formation et derrière de ne pas les laisser partir gratuitement si un club veut acheter votre joueur ou votre joueuse. En ce moment, il y a des discussions pour ça, pour qu'un club qui veut acheter une joueuse de 20 ans, qui a passé 5, 6 ans, 7 ans dans un club, et donc le club a investi pour cette joueuse, pour la faire progresser, que le club touche quand même un petit billet. Alors pour le foot féminin, ce sera des petites sommes pour le moment, mais il y a ça qui est en train de se mettre en place en France et peut-être aussi en Europe, parce que par exemple, l'Espagne l'avait déjà fait, ça. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que les clubs espagnols devaient payer pour acheter des joueuses en Espagne. Par contre, les clubs étrangers ne devaient pas payer pour acheter des joueuses espagnoles formées en Espagne. Il y a eu le cas avec Damaris Segurola, qui est en ce moment joueuse à l'OL. Le Barça la voulait et avait dû payer 300 000, en plus, grosse somme pour le foot féminin, de frais d'indemnisation de formation. Or, Everton, qui est en Angleterre, a pu se l'offrir gratuitement. Donc là, il y a des discussions en France pour faire ça, pour que, voilà, et Laurent Nicolin, notamment, vraiment a à cœur que ça se développe, parce qu'il y a beaucoup de ces joueuses du centre de formation de Montpellier, notamment, qui partent gratuitement, et c'est forcément décourageant pour ces présidents qui font déjà, on le rappelle encore et toujours, du mécénat pour développer la formation chez les féminines, et qui ensuite voient leurs joueuses partir gratuitement. Et donc ça, c'est le point sur la formation. Et pareil, les transferts payants, il y a autre chose, c'est qu'il y en a très peu, hein. On est bien d'accord, mais les clubs ne communiquent pas dessus parce que tout simplement, ils ont peur que ça ne mette pas en avant le football féminin, parce que quand il y a des transferts payants, et il y en a entre la D2, la D1, etc., c'est des transferts à quelques milliers d'euros à peine. Il y en a à 5 000, il y en a à 10 000. Par exemple, le premier transfert qu'il y a eu, je crois, de la D2 vers la D1, c'était Julie Piga de Grenoble vers Fleury. Ça a été peut-être 1 000 ou 1 500 euros, mais c'est un transfert payant. Et voilà, s'il y a beaucoup de joueuses formées dans les clubs qui finissent par avoir qui a des petits revenus comme ça, ça fera quand même avancer un peu l'économie du foot féminin à ce niveau-là.
Alors sur la formation, vous avez raison, c'est un réel problème que finalement, il n'existe pas de centre de formation agréé comme dans le football masculin, puisque évidemment, les joueuses qui sont dans les centres de formation, bon, en plus tous les clubs n'ont pas de centre de formation féminin. En fait, il n'y a pas de contrat vraiment, vous savez, comme pour le football masculin, avec le contrat d'apprenti, etc., d'aspirant. Et la plupart, du moins, au même âge, les filles sont surtout soit dans les pôles espoirs qui évidemment se sont créés il n'y a pas très longtemps et qui sont en forte croissance, soit dans les sections sportives scolaires. Donc, en effet, vous avez raison de souligner que c'est vraiment un réel problème et en effet, l'avancée au niveau de la formation et d'agréer les centres de formation et de donner des contrats aux joueurs sont très importantes dans l'avenir, à mon avis. Et c'est vrai que, bon, je ne savais pas que le président de Montpellier était très attaché à ça, mais c'est un réel problème. Et simplement, je voulais aussi intervenir sur les transferts. Alors, vous savez, on parle toujours des transferts des hommes, mais les transferts payants pour les hommes, c'est, si on prend le monde entier, c'est entre 10 et 15% simplement. Il y a 20% de prêts entre clubs et la plupart, c'est des transferts libres. Donc, évidemment, pour les filles, c'est encore pire. Mais si vous voulez, il y a aussi un problème lié à l'image que la presse renvoie au niveau des transferts. La plupart des transferts payants, et notamment ceux qui sont supérieurs à 5 millions d'euros, sont essentiellement dans le big five pour les hommes. Donc, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a des gros transferts, quelques-uns par an, mais la plupart des joueurs sont transférés à la fois libres ou en prêt. Et s'ils sont transférés avec des transferts payants, c'est des montants très faibles.
Nicolas, si tu avais une réponse à apporter là-dessus.
Non, pas spécialement. Mais en tout cas, merci pour l'expertise sur le sujet. Je trouve que c'est des sujets vraiment passionnants sur l'économie du foot féminin.
Je rajouterais juste un truc, quelque chose. C'est vrai que quand on regarde, alors pour qu'il y ait transfert, c'est ce que disait Richard, c'est que pour qu'il y ait un transfert payant, il faut aussi qu'on rachète un contrat et que les contrats chez les joueuses sont beaucoup plus courts que chez les joueurs pour l'instant. Donc une solution, c'est aussi de leur faire signer des contrats qui sont un peu plus longs.
Mais c'est difficile en fait de leur faire signer des contrats plus longs en moyenne si on prend la moyenne des contrats de la FIFA, parce que en fait il y a plein de championnats qui durent très peu de temps, où il y a des joueurs qui changent de championnat la même année, et finalement il y a aussi des championnats qui se sont créés récemment, notamment je pense à celui de Colombie, je crois, qui en effet a duré un ou deux ans et puis s'est cassé la gueule entre guillemets. Donc la durée des contrats, elle est aussi liée au risque, en fait, finalement, de la création et de la professionnalisation du football féminin.
Je me demandais quelles étaient pour vous les conditions, finalement, parce que on a évoqué beaucoup de sujets. On voit qu'il y a beaucoup d'évolution au niveau des salaires, qu'il y a des progrès qui sont faits et qui pourraient être faits encore au niveau des formations. Il y a le sujet des sponsors, le mécénat, tout ça, on l'a évoqué. Et je me demandais pour vous, quelles sont les conditions pour que, justement, le football féminin puisse continuer à se développer. En particulier, vous aviez parlé de cette augmentation de la demande dont on a besoin, finalement, puisque tant que les gens s'y intéresseront pas, tant que, on aura du mal à peut-être franchir un cap et augmenter davantage. Donc, je me demandais si vous aviez peut-être peut-être pas une liste de conditions, mais voilà, de choses qui pourraient permettre d'améliorer ça, en particulier au niveau de la demande du public et de la visibilité du football.
Une réponse chacun, messieurs.
Non, vas-y, Luc.
Alors, c'est vraiment la question, une question intéressante. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant à regarder, c'est faire le parallèle donc entre le foot féminin donc en Europe et puis ce qui s'est passé quand même aux États-Unis, puisque effectivement le foot féminin aux États-Unis est un peu présenté comme une sorte d'Eldorado pour le foot féminin, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est si on revient un petit peu en arrière, donc ça, c'est vrai que en plus, donc aux États-Unis, c'est soi-disant effectivement que le soccer, c'est vraiment le sport de femmes par excellence, puisqu'effectivement les hommes n'occupent pas forcément le terrain, ils préfèrent aller sur le football américain. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment s'est développé ce football féminin aux États-Unis. Donc, c'est vrai que on date un petit peu l'essor du football féminin aux États-Unis de la décision, donc. Politique, le fameux titre 9, en 1970, en 1972, qui interdit toute discrimination dans les programmes d'éducation. Donc c'est ça qui a développé énormément donc la partie féminine du sport, et notamment celle du soccer, puisque effectivement les hommes ne pratiquaient moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que même avec dans un pays effectivement où le football féminin pouvait davantage se développer, on voit que, comme disait Richard tout à l'heure, finalement, d'un point de vue économique, c'est pas si clair que ça. Alors effectivement, dans les stades, il y a quand même beaucoup plus de spectateurs qu'en Europe. On tourne autour de entre 6 et 7 000 spectateurs pour aller voir du football féminin. Mais c'est vrai qu'à côté, on le disait tout à l'heure, même la MLS fait beaucoup mieux puisqu'on est au niveau de la Ligue 1. Et en termes de revenus, c'est pareil. C'est, contrairement à ce qu'on peut dire. Alors c'est vrai que ça, c'est des modèles un peu économiques qui sont différents que ceux d'Europe, puisqu'ils sont basés surtout sur assez peu sur les droits télé, mais surtout sur de la billetterie et puis de ce qu'on appelle des match day revenues. Effectivement, quand on regarde les budgets des franchises américaines hommes, c'est à peu près 10 fois supérieur en moyenne aux franchises aussi féminines. Donc effectivement, même si j'ai cet exemple, c'est que même dans un pays où effectivement on a quand même des conditions pour que le foot féminin se développe assez, de manière assez forte, on voit que de toute façon, même là, il y a quand même des difficultés donc, au niveau de la demande. Donc, c'est quand même pas facile à ce niveau-là. Alors après, au niveau de ce qu'on pourrait faire en Europe, de toute façon, je pense qu'on en a un petit peu parlé tout au long de cette interview. Je pense que, effectivement, ça passe, moi, je dirais, ça passe par vraiment la formation, la professionnalisation. Tout d'abord, la formation. Ça, comme disait Richard, il faut quand même que ce qui serait bien, c'est que tous les clubs aient des centres de formation pour les filles. Ensuite, effectivement, ce qui suit, c'est la professionnalisation. Hein, il faut, là, on le disait tout à l'heure aussi, il faut qu'il y ait une ligue professionnelle de football féminin avec des joueuses professionnelles, un peu comme ce qui s'est fait en Angleterre. Et puis après, bon, c'est plus difficile. Il faut effectivement rendre ce football un peu visible, mais c'est d'une certaine manière, c'est en bonne voie puisque tous les matchs de D1 maintenant sont télévisés. Alors après, pour développer la demande, là c'est autre chose. Hein. Chez les économistes, hein, voilà, on parle de préférences. Il y a les préférences du... Voilà, enfin, c'est pas des consommateurs comme les autres. Hein. Un supporter de foot, c'est pas un consommateur tous les deux. Le spectacle de football, c'est pas un spectacle comme les autres, c'est autre chose. Mais néanmoins, là, effectivement, pour rendre le foot plus populaire, ça passe d'une certaine manière. Je pense que le fait déjà d'avoir une équipe nationale qui soit performante, d'avoir quelques équipes donc comme Lyon par exemple, qui sont vraiment en haut de l'affiche au niveau européen. Mais effectivement, le fait aussi d'avoir une équipe nationale performante, tout ça, ça peut aider effectivement à développer peut-être une certaine demande, un peu comme on peut l'espérer, hein, l'augmentation effectivement de la demande de foot masculin après le titre de 98, par exemple. Mais tout ça, moi, comme disait Richard, hein, on n'a pas une boule de cristal, mais quelque part, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses.
Ouais, et puis juste pour conclure, pour augmenter la demande, à mon sens, hein, c'est des réflexions qu'il faut pousser, mais je pense que la FFF doit faire un peu plus, les clubs doivent faire un peu plus, notamment dans l'attractivité autour des rencontres. Quand on se déplace sur les matchs, l'événementiel n'est pas poussé, il n'y a pas de boutique, on ne peut pas se restaurer. Enfin, c'est très limité à ce niveau-là, donc forcément, ce n'est pas un spectacle pour les gens. Et ça, je pense que c'est un point important sur lequel tout le monde doit travailler pour justement donner envie aux spectateurs de s'y rendre.
Richard Duhautois, d'un mot pour conclure aussi, si vous avez...
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Luc a dit, la formation, la professionnalisation, les résultats de l'équipe nationale sont des éléments importants. Et puis peut-être je rajouterais en effet la concurrence avec les autres pays qui commencent peut-être à dépasser les championnats de D1 féminines en termes de professionnalisation, qui va peut-être avoir un rôle sur les mouvements des joueuses et donc forcément sur peut-être un peu les salaires. Voilà.